Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont écoutables sur le site radioalpa.com et vous cherchez la page Radicaux Libres. On aurait pu vous parler cette semaine du fascisme qui n'existe pas en France, hein, bien sûr, sauf à LFI. Bah oui, je l'ai lu dans Front Populaire, le journal, la revue pardon, de Michel Onfray. Qui n'a pas lu tous les anthropologues possibles et imaginables? Eh bien, à Albi, depuis 2021, un groupe de faf, alors eux, ils disent identitaires, qui s'appelle Patria Albigès, attaque des syndicalistes, des militants de gauche, récupère des bagarres de baluches qui tournent mal, que ce soit à Crépol ou ailleurs, et répandent leur idéologie de tri des humains dans toute la région albigeoise. En avril 2025, une partie de la bande veut en découdre pour venger le fils d'un député RN qui fut le chef de Patria Albigès et qui a eu maille à partir avec des personnes qui lui ont collé des coups. Et les voilà donc, ces membres de Patria Albigès, qui fondent sur un bar connu pour être de gauche, à la recherche d'un militant de gauche. Ils agressent des clients, font des dégâts et se font gauler. Le 16 avril 2026, le tribunal correctionnel condamne la troupe à de la prison avec sursis. Pour la plupart, un des prévenus en récidive fera 8 mois de placard. Comme quoi, les groupes de fascistes qui n'existent pas agissent quand même pas mal. Ils devraient être dissolus, Patria Albigès, jusqu'à ce qu'on en refasse un autre. Et oui, ça marche un petit peu comme ça, avec la dissolution, si vous voulez en savoir plus sur ce genre de groupe, pour savoir à qui vous vous attaquez. Et la Horde, dont on a déjà parler ici sur cette antenne, lahorde.info, a produit une nouvelle carte. Eh oui, qu'elle met à jour régulièrement. Une carte dans laquelle elle a oublié les sénomans. On en reparle tout à l'heure. lahorde.net, pour en savoir plus sur les groupes de faf près de chez vous. Sans transition, on aurait pu vous parler de Nicolas Sarkozy. Ouais, alors sans transition, vous ferez ce que vous pourrez. Qui est encore en procès, toujours pour des soupçons de corruption dans l'affaire libyenne. Cette semaine, c'est la fête aux copains, un peu comme la semaine dernière. Le plus petit de nos grands hommes continue de balancer sur ses petits camarades qui ont servi sa carrière. Et se sont servis au passage. Hein. Les autres se défendent, en particulier Claude Guéant, qui n'arrête pas de se faire balancer. Eh bien, il n'a pas eu l'air de trop apprécier qu'on le fasse passer pour un loup solitaire qui aurait agi de sa propre initiative. Non. Pour tous ceux qui choisiraient la position carpette devant les puissants en espérant passer au travers des mailles du filet, ou mieux, en espérant un petit peu de ruissellement, n'oubliez pas que vous êtes et resterez sur la liste des fusibles des grands de ce monde. Eh oui, vous n'en êtes pas des grands de ce monde, mais peut-être que en participant à la carrière, eh bien, vous espériez être quelqu'un d'autre. C'est pas sûr du tout, hein. Et donc la position carpette, c'est pas toujours la meilleure. J'ai entendu quelque part, la lutte c'est la vie, c'est peut-être ça. On aurait pu vous parler également du mercato de l'information qui amène de plus en plus de journalistes et chroniqueurs ayant bossé pour Bolloré et ses médias dans le service public. Et ça laisse des traces. Oui, ça laisse des traces. Sur France Info, le 12 avril 2026, on aurait pu entendre ça.
Merci beaucoup. Merci Louis Herdeau d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, La Révolution intérieure aux éditions de l'Équateur. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Vous restez bien évidemment sur France Info. On va revenir dans quelques instants sur ce séisme politique en Hongrie.
Vous avez bien entendu où nous sommes. Alors l'invité c'était Louis Arnaud, une émission qui s'appelle Le Pour et le Contre, le dimanche. Le Louis Arnaud en question a écrit La Révolution intérieure aux éditions l'Équateur. Il a été otage en Iran entre 2022 et 2024. La journaliste, elle s'appelle Claire-Elisabeth Beaufort. Elle a commencé sur TF1 il y a 20 ans et elle est ensuite passée par iTélé et reste quand c'est racheté par Bolloré et que ça devient CNews après la crise de 2016 et le départ de plus des deux tiers des journalistes. Pas elle. Elle reste jusqu'en 2021, passe sur LCI, puis devient chargée de com pour une boîte d'immobilier de luxe. Et enfin, en 2023, elle arrive sur le service public.
Large majorité. Voilà pour ces toutes dernières informations concernant la Hongrie. On rappelle que de son côté, Viktor Orban reconnaît une défaite douloureuse. Vous restez sur CNews. Merci Paul, merci Nathan. Et puis vous retrouvez Soria Khaldoun dans quelques instants.
Oh là, et tout à coup, on est passé sur CNews. Oui, oui, c'est le même son, hein, bien sûr, à une minute d'intervalle. Il faut dire qu'elle était un petit peu speed, hein, à parler de machin magyar. Bidule magyar, truc muche magyar, en tout cas. Celui qui a gagné contre Viktor Orban et dont on se demande s'il va être juste un succès d'année de Viktor Orban, puisqu'il était dans le même parti 2 ans auparavant et que c'est un conservateur de droite. Autant vous dire qu'on n'est pas passé à la révolution en Hongrie. Eh bien, depuis la rentrée 2025, Claire-Elisabeth Beaufort, elle anime le pour et le contre à un talk show où deux anciens de CNews, ah, ça aide pas, Paul Melun, contributeur régulier à la revue de Michel Onfray Front Populaire, et le nouveau philosophe Nathan Devers, un ancien de CNews, s'affrontent sur des sujets de société. La journaliste Claire-Elisabeth Beaufort, qui est passée donc de France Info à CNews en une minute sur l'antenne de France Info, mais qui est passée en fait de CNews à France Info en quelques années, eh bien cette journaliste s'est retrouvée en terrain très très connu. Elle était entourée d'un côté par un souverainiste de gauche, c'est lui qui le dit, Paul Melun, qui a fondé un laboratoire d'idées qui n'a plus beaucoup d'actualité, hein, qui s'appelle Souverain Demain, qui chronique dans le JDD, qui est capable de balancer des citations de Kant au débotté et de défendre l'idée d'un racisme anti-blanc sur Europe 1. Voilà. Et de l'autre côté, un soutien revendiqué de BHL, dont il a édité la revue, qui s'appelle La Règle du Jeu, un Nathan Devers, qui aurait pu devenir rabbin, ouais, j'ai lu ça dans sa bio, mais qui a préféré la philosophie de Plateau, qui anime un talk show sur France Culture, se retrouve sur France Info et se dit de gauche et libertaire. La belle brochette que voilà, s'est tellement senti en confiance que bah, maintenant, vous le savez, dans plusieurs cases horaires, quand vous êtes sur France Info, bah, vous pouvez rester sur CNews. On aurait pu vous parler également de la pétition contre la loi dite Yadan du nom de la députée Caroline Yadan, élu en 2024 contre Meir Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, donc qui concerne en gros l'ouest de l'Asie, ouais, donc l'est de la Méditerranée. Caroline Yadan est un soutien indéfectible de l'État d'Israël, un État qui est actuellement dirigé par une coalition nationaliste religieuse qui comprend des suprémacistes juifs revendiqués, comme le ministre Itamar Ben-Gvir, dont on a déjà parlé, qui est l'un des dirigeants du parti Force Juive. Caroline Yadan est tellement pro-israélienne qu'elle est prête à pipoter sur ceux qui critiquent les massacres. Les crimes de guerre et colportent l'idée d'un génocide à Gaza. C'est l'amour sans faille pour l'État d'Israël qui l'a amené à diffuser des fake news, par exemple sur la représentante de l'ONU, Francesca Albanese, en menant dans son sillage le frêle ministre des Affaires étrangères, dont on sent bien qu'il peut plier d'un côté ou de l'autre suivant d'où vient le vent. Le frêle ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ben oui, et qui est de la même coterie macroniste que Caroline Yadan, en l'occurrence macroniste. Depuis les attentats du 7 octobre 2023, Caroline Yadan voit des antisémites partout. Ils ont tous un point commun. Ils critiquent le gouvernement israélien et ses actions. Et que ce soit par antisémitisme, bah oui, il existe encore des cons hein, en France pour propager des idées antisémites, ou que ce soit par humanisme, parce que bah, c'est peut-être pas bien de tuer des hommes, des femmes, des enfants, de bombarder des hôpitaux, et puis de balancer un missile et d'attendre 3 quarts d'heure pour balancer un missile au même endroit quand les secours sont arrivés. Ça se fait pas, quoi. Eh bah, ben ceux qui critiquent aussi ce genre d'activité sont des antisémites. La critique des dirigeants d'Israël et de leurs actions vaut brevet d'antisémitisme pour tout le monde, que vous soyez antisémite vraiment, il en existe, ou humaniste et que vous diriez que la guerre, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Une nouvelle loi devait être examinée cette semaine, une loi qui veut lutter contre les nouvelles formes de l'antisémitisme. Une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale avait recueilli plus de 700 000 signatures, ces pétitions étant devenues une nouvelle arme démocratique pour que la population donne son avis sur des lois dont elle n'a pas le droit de se saisir, hein, puisque elle fait pas partie des élus. Si pétition sur le site de l'Assemblée nationale dépasse les 500 000 signatures, la pétition peut amener un débat à la même Assemblée nationale. Mais il faut que ce débat soit accepté par la Commission des lois. Et cette semaine, à la Commission des lois, en l'occurrence le 15 avril, on a pu entendre ça.
On a exprimé un vote pour le classement. 30 députés pour l'examen. 21 et il n'y a pas d'abstention. Donc la pétition est ainsi classée. Je vous remercie et nous nous retrouverons en séance sur la proposition de loi cet après-midi. Merci.
Et voilà, c'est fini, classement. Eh ben oui, il y en a 30 sur 51 qui ont dit « Bon, non, non, on va classer cette pétition. Elle n'amènera pas un débat à l'Assemblée nationale. » Mais qui trouve-t-on à cette commission des lois pour classer une pétition qui a recueilli plus de 700 000 signatures et dont on peut se dire bah, « Tiens, ça a l'air d'intéresser la population. » Eh bien, on trouve monsieur, par exemple, Romain Baubry du Rassemblement national. Jonathan Géry, Johan Gillet, Jordan Guiton, Gisèle Lelouis, Marie-France Lorlot, Lisette Paulet, Mickaël Taverne, Antoine Villieu, tous du Rassemblement National. Madame Sophie Ricourt-Vaginet, qui est de l'UDR, de Ciotti. Oui, on retrouve enfin plein de gens de Ensemble pour la République, de la droite républicaine, en l'occurrence les Républicains. On retrouve des gens d'Horizon, on retrouve des démocrates aussi. Oui, parce qu'il y a un groupe à l'Assemblée nationale, un groupe législatif qui s'appelle les démocrates. En gros, on trouve toute la droite et l'extrême droite, un petit peu comme d'habitude. Et tout ce beau monde a décidé donc de classer la pétition pour qu'il n'y ait pas des débats. Alors à tous ceux qui pensaient que, waouh, cette histoire de pétition là, depuis l'affaire Duplomb, c'était l'occasion pour la population de s'exprimer, eh ben ça y est, fermez le banc. Ils se sont aperçus qu'il y avait un filtre et que le filtre, on pouvait l'appliquer et que ça n'amenait pas grand-chose. Il n'empêche que en France, cette semaine, plusieurs manifestations ont eu lieu contre cette histoire de la loi Yadan. La loi Yadan qui, je le rappelle, voit des antisémites partout, mais bien sûr que ça n'a aucun rapport avec Israël, même si dans l'exposé des motifs, plus de 15 fois apparaît le mot Israël. On aurait pu vous parler sans distinction des flics tabasseurs du commissariat du 19e arrondissement. Sur le sujet, consultez l'excellent site streetpress.com. On aurait pu vous parler également de l'entreprise Lafarge, condamnée cette semaine pour avoir préféré ses profits, même si ça impliquait de financer Daesh. Eh oh, l'argent n'a pas d'odeur. Mais finalement, on a préféré vous parler des municipales. Allons bon, les municipales. Ouais, comme si plus les élections, on a enlevé le jingle. Mais si vous le réclamez, on peut le remettre. Vous pouvez le réclamer sur c'estpasmoi@no-log.org. Les 15 et 22 mars dernier ont eu lieu les élections municipales qui servent à élire le conseil municipal au Mans. Les résultats ont donné 42 conseillers à la liste Le Mans nous rassemble, 6 à la liste Union pour Le Mans, 4 à la liste Rassemblement pour Le Mans, 3 à la liste Le Mans Nouveau Cap. Bon, bah, a priori, on va toujours aller dans l'ancien. Au sein du conseil municipal, une nouvelle élection a lieu à partir du moment où tous les conseillers municipaux sont élus. C'est celle du président du conseil municipal, que tout le monde appelle le maire. Alors, pas forcément Bruno. Non, elle est pas bonne celle-là, je la ferai plus. Donc, tout le monde appelle le maire ou la mairesse ou la maire ou je ne sais plus. Cela se passe lors du premier conseil municipal, le fameux conseil d'installation. Ce dernier, le conseil d'installation municipale, a eu lieu au Mans le 27 mars. Et donc, l'article 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales nous dit « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. » Eh oui, il y a une prime aux vieux, mais ça, c'est pas marqué dans l'article du Code général des collectivités territoriales. Donc voilà comment ça peut se dérouler. Au Mans, il y a eu un seul candidat, Stéphane Le Foll, qui a été élu avec 45 voix dès le premier tour, alors que sa liste possède 42 conseillers élus. Mais qui donc a bien voulu que, dans les listes concurrentes, que Stéphane Le Foll redevienne le maire ? Ensuite, il a fallu déterminer le nombre d'adjoints. Ça s'est passé le même jour, le 27 mars, pendant ce conseil municipal d'installation. Pour Le Mans, il y en a 16, des adjoints. Il peut être décidé d'en mettre jusqu'à 30%. 30% de 55, bah, ça faisait un peu plus que 16. Bon, bah, là, il y en a 16. Et il y a donc une liste des 16 adjoints qui est dressée pour être élue au sein du conseil municipal. La seule liste en lice est celle de Le Mans nous rassemble. Ensuite, il a été question des délégations de prise de décision octroyées au maire. On en compte 27 en 2026. Elles étaient 28 en 2020, 22 en 2014. Ça correspond à quoi ? Bah, tout simplement, là, le conseil municipal délègue des prises de décision au maire. Comme ça, ça ne passe pas par le conseil municipal, mais ça passe directement par le maire qui prend des décisions et en référera, si besoin se fait sentir, auprès du conseil municipal. Et bah toujours un peu les mêmes, hein, toujours un peu les mêmes ces délégations. Ça touche toujours un peu la même chose. Et puis bah certaines s'ajoutent au fur et à mesure du temps, des obligations légales. Tout ça fait que bah le maire a quand même pour une partie de ce qui est décidé normalement par le conseil municipal et il est le seul à avoir voix au chapitre. Une autre délibération intéressante, les indemnités de fonction. Ces indemnités que vous pourrez avoir également dans la presse locale, puisque j'ai vu que ça faisait les gros titres ce week-end pour les auditeurs du direct. 5600 euros pour le maire. Voilà, c'est brut, c'est comme ça. Les adjoints toucheront quant à eux 2577 euros bruts par mois. Les conseillers délégués bénéficieront d'une indemnité de 1447 euros bruts, tandis que les autres conseillers municipaux, ceux qui n'ont pas qui ne sont pas adjoints et qui n'ont pas de délégation, eh bien, eux recevront 301 euros bruts mensuels. Alors, n'en déplaise aux Fillon, Attal et autres professionnels de la politique, représentant du peuple n'est pas une carrière. On ne parle pas de salaire pour cet argent qui est touché par nos élus. Non, non, on parle d'indemnité, car le fait d'être élu n'est pas un métier. Cependant, le temps utilisé pour assurer son rôle de soi-disant représentant empêche parfois l'élu d'avoir une activité économique lui permettant d'avoir des revenus, payer son loyer, sa bouffe, sa blanchisserie, etc. Alors, il est indemnisé. Ok. Le mot même d'indemnité montre que l'élu n'est pas un métier, c'est un mandat, une délégation de pouvoir de la part du peuple. Un mandat à la carte, hein, parce qu'une fois élu, le soi-disant représentant n'a plus à essayer de suivre le programme qui lui a permis de convaincre les électeurs. Par exemple, on apprend cette semaine que le maire de Clermont-Ferrand, un membre du parti des honnêtes gens de Retailleau, aïe, pas facile à mettre dans la même phrase ça, honnêtes gens et Retailleau, hein. Ben oui, parce qu'on parle quand même du soutien des féminazis de Némésis. Et puis, on parle de quelqu'un qui a triché à Interville. Enfin bon, le parti des honnêtes gens, donc le maire Les Républicains de Clermont-Ferrand, avait assuré ne pas briguer le poste de président de Clermont-Ferrand, de Clermont-Auvergne Métropole, s'il était élu maire. Eh bien, devinez, non seulement il est élu maire, mais le voilà candidat pour une élection qui aura lieu le 24 avril à la tête de la métropole Clermont-Auvergne. Un mandat sans autre contrainte que les lois de la République. Voilà ce que possèdent nos représentants. Et même dans la Constitution, le mandat impératif est rendu illégal. Déjà que la parole des populations doit s'exprimer par le biais de ses représentants, comme l'affirme l'article 3 de la Constitution de la 5e République de 1958, mais dans l'article 27, eh bien, on en rajoute une petite couche pour rendre le régime encore moins démocratique. Je cite « Tout mandat impératif est nul ». Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Donc, vous pouvez avoir le mandat d'un copain, député, sénateur ou autre quand vous êtes élu. Mais le mandat impératif est nul, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être élu sur un programme que vous seriez obligé d'appliquer. Non, ça c'est nul. C'est tellement nul que c'est interdit. Donc le mandat impératif interdit en France, la population qui s'exprime directement interdit en France, sauf dans le cas de référendum, et c'est l'article 3 de la Constitution, et nous voilà dans un régime que l'on dit démocratique. Ça ressemble un petit peu à de l'arnaque quand même. Bon, à ce moment de l'émission, je pense franchement qu'un petit texte rappelant la position des démocrates que sont les anarchistes s'impose. Alors voilà donc un extrait. Extrait tiré du manifeste pour l'anarchisme de Walter Nicolas, un Britannique qui écrit ça en 1969, justement, à propos mandat. Bien des gens sont opposés à un gouvernement antidémocratique, mais les anarchistes se distinguent d'eux en s'opposant aussi au gouvernement démocratique. Il y a d'autres gens qui sont opposés au gouvernement démocratique, mais les anarchistes se distinguent d'eux en l'étant non point parce qu'ils craignent ou haïssent le gouvernement du peuple, mais parce qu'ils croient que la démocratie n'est pas le gouvernement du peuple. Que la démocratie est en fait une contradiction logique, une impossibilité physique. La vraie démocratie n'est possible que dans une petite communauté où chacun peut prendre part à toutes les décisions. À ce moment-là, elle n'est plus nécessaire. Ce qu'on appelle démocratie, et dont on prétend que c'est le gouvernement du peuple par lui-même, est en fait le gouvernement du peuple par des gouvernants élus. Et on devrait plutôt l'appeler oligarchie consentie. Donc de fait, là, Monsieur Nicolas Walter s'attaque plutôt à la démocratie représentative et il critique le fait qu'elle est tout simplement le gouvernement par des gouvernants élus. Le gouvernement par des chefs qu'on a choisis est différent et généralement meilleur que celui où les chefs se sont choisis eux-mêmes. Mais c'est encore le gouvernement de certains sur d'autres. Même dans le gouvernement le plus démocratique, il y a toujours ceux qui ordonnent ou interdisent et ceux qui obéissent. Mais quand nous sommes gouvernés par nos représentants, nous continuons d'être gouvernés. Et dès qu'ils commencent à se faire contre notre volonté, ils cessent d'être nos représentants. La plupart des gens admettent que l'on n'a aucune obligation envers un gouvernement dans lequel on ne peut se faire entendre. Les anarchistes vont plus loin et soulignent que nous n'avons aucune obligation envers le gouvernement que nous avons élu. Nous pouvons lui obéir parce que nous sommes d'accord ou parce que nous sommes trop faibles pour désobéir. Mais rien ne nous force à lui obéir quand nous sommes en désaccord et assez forts pour refuser de le faire. La plupart des gens admettent que ceux qui sont concernés par un changement devraient être consultés avant qu'une décision soit prise. Les anarchistes vont plus loin et soulignent qu'ils devraient prendre la décision eux-mêmes et la mettre en application. Les anarchistes rejettent donc l'idée du contrat social et celle de la délégation des pouvoirs. Sans aucun doute, en pratique, la plupart des choses seront toujours faites par peu de monde, par ceux qui sont intéressés par un problème et sont capables de le résoudre. Mais il n'y a aucune raison pour qu'ils soient choisis par sélection ou élection. Ils émergeront toujours de toute façon. Il vaut mieux que cela se fasse naturellement. L'important est que les leaders et les experts ne soient pas forcément des chefs. Que l'expérience et la capacité d'organisation ne soient pas nécessairement liées à l'autorité. Il peut arriver que la représentation soit utile, mais le vrai représentant est le délégué ou le député qui est mandaté par ceux qui l'envoient et qui peut être révoqué immédiatement par eux. En quelque sorte, le chef qui se réclame de la représentativité est pire que l'usurpateur. Parce qu'il est plus difficile de s'attaquer à l'autorité quand elle est enveloppée de jolis mots et d'arguments abstraits. Que nous puissions élire nos chefs de temps à autre ne signifie pas que nous devions leur obéir tout le temps. Si nous le faisons, c'est pour des raisons pratiques et non morales. Les anarchistes sont contre les gouvernements de quelque manière qu'ils soient parvenus au pouvoir. Eh ben voilà, c'est assez clair. Après ce petit rappel, revenons aux réunions des élus de la commune. Dès le conseil municipal du 4 avril, l'élu du parti d'extrême droite, le Rassemblement national, rejoue sa partition de campagne. L'absence. Victoria de Vigneral, pointée du doigt pour son activisme dans des mouvements et des partis racistes en Belgique, pays dont elle obtient la nationalité en 2016, tout en gardant la française. Une binationale. J'ai cru entendre qu'à l'extrême droite, ça gênait un peu la binationalité. La revoilà au RN à partir de 2019 et élue du parti raciste qui affirme la préférence nationale au conseil régional des Pays de la Loire à partir de 2021. Élue pour le département de Vendée. En Sarthe. Ah oui, elle arrive en Sarthe par la suite. Elle se présente aux législatives de 2022 et 2024. En Sarthe, où elle a vu sa ville changer négativement, comme elle le dit, à tel point qu'elle voulait la priorité pour les Manceaux et les Mancelles, déclinaison municipale de la préférence nationale. Manceaux et Mancelles, sans doute les seuls en capacité d'avoir une attitude authentiquement municipale. Un groupe identitaire né en décembre 2025 dans le coin revendique le même entre-soi. Il s'appelle les Cénomans, groupe où se retrouve Félix Aubry, bien sûr, de génération Zemmour. Les Cénomans collent des stickers pas très grands et peu subtils sur lesquels il est proposé, je cite, « Manceau, rejoins les tiens. C'est vrai que les Arnageois et les Changéens ne sont pas des gens comme nous. » Bon, ben ça, c'est pas noté. Avec les identitaires et les nationalistes, on n'est jamais déçu par l'étendue de leur connerie clochemerlesque. Victoria de Vigneral, donc, n'est pas le 4 avril pour participer à 12 délibérations du conseil municipal. Heureusement, elle a donné son pouvoir de vote à Gérard Loubier, un autre élu du parti raciste Le Rassemblement National. Gérard Loubier, candidat malheureux à la présidence de la Fédération sartoise du parti Les Républicains, et qui est ensuite passé dans la petite entreprise Le Pen, à savoir le Rassemblement National. Victoria de Vigneral, qui apparaît dans une des huit commissions permanentes des affaires municipales, en l'occurrence la commission culture et rayonnement de la ville, puisque ce conseil municipal du 4 avril a été l'occasion d'élire les membres des commissions permanentes. Victoria de Vigneral, qu'on risque de ne pas voir très très souvent. Le reste du conseil a servi surtout à désigner les représentants de la municipalité dans des organes comme la commission d'appel d'offres, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, la commission des délégations de services publics, les DSP, et puis vinrent les délibérations 7 et 8 sur les frais de représentation du maire et des élus. Eh bien, sachez que 9000 euros en année pleine sont attribués pour les frais de représentation du maire, et par contre, pour les élus, eh bien, ce sont des frais remboursables sur présentation de justificatif. À noter que les dépenses du maire pour frais de représentation doivent faire l'objet de, je cite, un état récapitulatif annuel. Eh ben, ce sera intéressant de savoir à quoi ça correspond. Voilà donc le conseil municipal paré. Paré pour gérer la commune et son budget, pour représenter la population, toute la population. Et en plus, tout ce beau monde va pouvoir agir au niveau de la communauté urbaine, regroupant 20 communes autour du Mans, puisque le conseil communautaire, installé lors de la séance du 9 avril, regroupe 74 conseillers venus de toute cette CUM. Alors, on dit Pucum, on dit maintenant Le Mans Métropole. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Et puis Métropole, ça fait beaucoup plus sérieux que Cum. En tout cas, le conseil communautaire installé le 9 avril, eh bien, regroupe 74 conseillers de ces 20 communes autour du Mans, dont Le Mans. Et un président, devinez qui a été élu? Bah oui, Stéphane Le Foll, il était déjà en poste en 2020. Lui n'avait pas promis du tout, comme le maire de Clermont-Ferrand, de ne pas se présenter au conseil communautaire. Non, non, il assume. Il est donc le président du conseil communautaire et le président du conseil municipal du Mans. Et puis, bah, roulez jeunesse, quoi. La démocratie est donc en marche? Ah, manque de bol. C'est une démocratie représentative. Il se passe plein de choses dans notre belle ville, en l'occurrence le samedi 18, comme tous les samedis, depuis maintenant octobre 2023. Une manifestation de solidarité avec les Palestiniens, Palestiniennes aura lieu à 14h, place de la République. On peut également vous annoncer que le lundi 20, l'Assemblée du collectif sartois des soulèvements de la terre aura lieu à l'Allumette à 18h30. L'Allumette, mais où cela est-il donc? Eh bien, c'est 7 rue de la Marne. Le collectif sartois des soulèvements de la terre, avec lequel vous pouvez communiquer, je vais y arriver, sur lessoulèvementsdelaterre72@riseup.net. Et à propos de l'allumette, il se passe des choses tous les jours, ou presque tous les mercredis et samedis, de 14 à 19h, cette rue de la Marne. Eh bien, il y a le centre social autogéré, l'allumette, est ouvert. Vous y trouvez un café associatif, une laverie gratuite, une salle informatique, une bibliothèque, de l'entraide administrative. C'est donc tous les mercredis et samedis de 14 à 19h. Et à propos de ce qui se passera dans les journées suivantes, entraide personnes exilées, samedi 18 de 14h30 à 16h30. Et parce que les papiers, c'est pas si facile. Et à propos d'autres activités, on peut vous citer l'Assemblée Générale qui est ouverte à tous les membres. Si vous n'avez pas encore pris votre cotise, ça sera le moment. C'est 18h pour les nouveaux et les nouvelles. Et sinon, ça commence à 18h30 et ça aura lieu le mardi 21 avril. Eh ben voilà, que vous dire de plus dans ces temps compliqués, on va pouvoir se ressourcer tout ce week-end pour ceux qui n'habitent pas très loin du circuit des 24 heures, puisqu'il y a les 24 heures moto. Et des motos vont tourner. Pendant 24 heures, bah oui, on a vraiment besoin de ça, c'est la fin du monde ou presque. Il y a de la pollution, en veux-tu, en voilà. Mais il est important quand même qu'il y ait des compétitions de véhicules à moteur et des compétitions qui durent même 24 heures. Allez, c'est pour notre plus grand plaisir à tous. En attendant, bah, on va se dire tout simplement, allez, au revoir. Mmh.